Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h20, merci à vous d'écouter Europe 1 et dans votre débat du Club des idées d'Europe 1, ce soir on va parler du néo-rétro, cette tendance à laquelle vous avez peut-être succombé si vous êtes né entre 1950-1980, dans l'automobile comme dans la musique, le design, les objets du quotidien, la mode, certaines marques iconiques font leur grand comeback. Après des décennies, les yeux tournés vers les nouvelles technologies, la nostalgie qui fait recette, on en débat ce soir avec mes invités. Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le sociologue Ronan Chastelier, président de Tendanceau, auteur de Tendanceologie, la fabrication du glamour aux éditions Erol. Bonsoir. Et Marie-Cécile Cervelon, professeure de marketing à l'EDEC Business School, auteur de La nostalgie révolutionnaire aux éditions Emerald. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors je tiens à préciser que si on a eu envie de faire ce débat ce soir sur Europe 1, ce n'était pas pour dire que c'était mieux avant. Vous savez qu'au contraire, on aime bien s'intéresser à ce monde qui bouge, se projeter, mais il y a quand même plusieurs choses qui nous ont interpellés ces derniers temps. Et la dernière en date, c'est l'annonce par Renault de la fabrication prochaine d'une R5 électrique. Une R5, on a tous sursauté en entendant ça. Les R5 qui n'est plus fabriquée en France depuis 1984. Qui eût cru qu'elle incarne un jour la modernité? Eh bien si. Alors d'abord, pour poser ce débat et pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on appelle le néo-rétro? Qui veut répondre à cette question?
Pascal.
Non, Pascal Hébel. Allez-y, Pascal Hébel.
Non, mais c'est juste du vieux neuf. Quoi. C'est, si vous voulez, c'est l'idée de... comme ça, dans l'incertitude économique, on ratifie de vieilles choses pour en faire des classiques instantanés, si vous voulez. Et donc, il y a cette logique, si vous voulez, de mettre un petit peu de futur et beaucoup de vieux. Voilà, donc le vieux neuf, la néo-authenticité. Enfin, on peut décliner le thème.
Le vieux neuf, c'est moche comme expression.
Voilà, hein. Alors si on vous préférez néo-authenticité, voilà, ça fait plus intello, allons-y.
C'est quoi la différence avec le vintage, Marie-Cécile Cervelon?
Alors, le vintage, étymologiquement, c'est un terme anglais qui vient du mot français vendange. Donc, c'est un terme qui est utilisé à la base dans le domaine de l'œnologie pour désigner un millésime, c'est-à-dire une année de production particulière et remarquable. Donc, aujourd'hui, on utilise le mot vintage un peu n'importe comment, mais c'est censé représenter, en fait, un objet qui vient du passé, qui a été produit à une époque déterminée et qui a moins de 100 ans. Parce que sinon, on considère on peut considérer que c'est une antiquité, en fait. Les reproductions ne sont pas vintage, mais si leur conception, elles font référence au passé, on peut les qualifier de rétro. Donc rétro, c'est un terme beaucoup plus général que le terme de vintage. Et puis néo-rétro, alors quand on fait référence au néo-rétro, ça tente à qualifier dans des secteurs comme l'automobile, l'électroménager, etc., des objets qui ont une esthétique rétro, mais qui proposent également des caractéristiques de confort, de performance, qui vont être basées sur la technologie moderne. Bon, voilà. Ce sont les principales différences entre le vintage et le rétro ou néo-rétro.
Ronan Chastelier.
C'est surtout une logique de collectionneur. C'est un objet unique, le vintage, alors que on est dans une logique
c'est
de sérialisation
et d'industrie. C'est essentiellement, en effet, un marché de collectionneur.
Et c'est l'envie aussi de retrouver notre Madeleine de Proust, revisitée et améliorée, en l'occurrence.
Oui, alors Proust n'est jamais loin. C'est ça qui est intéressant avec le monde de la consommation, c'est qu'on a tous envie, si vous voulez, de réactiver. Enfin, surtout les turiféraires du marketing ont envie, si vous voulez, de remettre au goût d'aujourd'hui une espèce de saveur d'autrefois. Et ça marche très bien d'un point de vue économique, parce que c'est beaucoup moins risqué, mais vous en parlerez sans doute, de faire du vieux neuf ou de la néo-authenticité ou du néo-rétro que de faire du neuf, d'inventer quelque chose.
Voilà. D'accord, ok. On a moins besoin d'inventivité, mais c'est moins risqué. Et pourquoi ce besoin de retour dans le temps? Parce qu'on va le voir tout au long de ce débat, Pascal Hébel, ça concerne absolument presque tous les secteurs. On disait l'automobile tout à l'heure, l'habillement, le design.
Oui, on en trouve partout, même dans l'alimentation. C'est-à-dire que ça fait appel à ce sentiment de nostalgie qui permet à chacun de se créer une identité et surtout de revenir sur des passés qui sont idéalisés. Donc en fait, ça répond vraiment, ça se développe vraiment dans des périodes où on est très anxieux. Évidemment, la période actuelle, c'est le cas, parce que ça permet de se rattacher à quelque chose de positif. Donc c'est forcément quelque chose qui va se vendre bien parce qu'on fait appel à cette émotion. Donc le marketing va utiliser ce biais-là. cette émotion. Pour rappeler des choses positives, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc on en trouve dans tous les secteurs, mais c'est le retour du vinyle, c'est le retour des Polaroids. En fait, on voit des choses comme ça sur tout un tas de secteurs de la consommation.
J'évoquais tout à l'heure Renault parce que c'était le dernier exemple en date et que ça nous a marqué, qui est Renault qui va lancer une R5 électrique, mais cette vogue du néo-rétro, elle concerne d'autres constructeurs, d'autres voitures. C'est déjà d'ailleurs Luca De Meo qui avait fait très fort en relançant la Fiat 500 avec le succès qu'on connaît. Il y a eu la nouvelle coccinelle New Beetle. Il y aura, paraît-il, bientôt une nouvelle version chez Volkswagen du combi, le chouchou des hippies. De nombreux constructeurs font le choix de faire revivre leurs icônes. Comment est-ce qu'on explique ça ?
Alors, il y a vraiment cette idée de rassurer, en fait, et d'aller vers... Il y a un lien avec l'authenticité, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée qu'on est dans une rupture, une transition, et donc on a besoin de revenir à des choses qui sont plus terre-à-terre, et donc c'est ces questions-là qui reviennent. Et c'est vrai que ça plaît à ceux qui sont plutôt quadra, quinca, et pas forcément aux plus jeunes. Hein. C'est vraiment de faire consommer ceux qui veulent revenir en arrière, alors que ceux qui sont jeunes vont plutôt se projeter sur autre chose. Ou bien sinon, c'est pour les plus jeunes, c'est d'essayer de faire partir d'une communauté, de penser à leurs parents et vraiment de se rassurer. Donc c'est vraiment un appel à une émotion positive et qui va faire vendre.
Marie-Cécile Cervelon, c'est aussi une façon pour les marques de rappeler aux clients, je pense aux voitures en particulier, aux clients qui sont de plus en plus infidèles et volages, qu'ils ont une histoire commune.
Tout à fait. L'héritage, c'est un point d'ancrage pour le storytelling. C'est une manière de créer un lien émotionnel extrêmement fort avec les clients. Et je pense que le ressort de la nostalgie, c'est aussi de favoriser le lien social. La nostalgie, elle est fédératrice autour du sentiment d'appartenance à une génération. On a vécu les mêmes choses en même temps, mais ça crée également du lien entre les générations. Ça permet de rapprocher les générations. Et bien entendu, ça favorise la transmission des connaissances, l'héritage culturel, social et familial. Donc c'est extrêmement positif de jouer là-dessus pour une marque.
Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que les voitures modernes sont assez interchangeables aujourd'hui, tellement sophistiquées et confortables, hein, qu'elles en ont perdu en sensation. Posséder une vieille voiture, c'est s'offrir peut-être un voyage dans le temps, retrouver des odeurs, des sensations, un rapport plus direct avec le moteur.
Ouais, alors dans le livre que vous avez cité, Tendanceologie, qui
Mon livre.
À l'époque, j'avais émis l'hypothèse que toutes les tendances, en fait, sont des fragments de culture, des archétypes, de la culture, en fait, qui est actualisée par des formes de pensée et de ressenti contemporaine. Et en fait, travailler comme ça en marketing, c'est toujours un travail sur l'intégration contemporaine, sur le va-et-vient entre l'univers de la consommation qui est très actuel et le champ culturel. Voilà. Donc, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que le marketing, c'est pas nécessairement la culture du vide. Il y a une dimension d'érudition. Peut-être que le consommateur peut éprouver un plaisir d'érudition en voyant ces objets, ou alors peut simplement un plaisir esthétique lié à la recréation contemporaine, si vous voulez. Mais voilà, il va toujours reconnaître, si vous voulez, une sorte de type d'intimité, hein, dans cet archétype, dans ce fragment de culture qui bondit hors du temps, quoi, et qui devient une tendance. Et en fait, il y a quelque chose de très tendance dans ces aspects un peu nostalgiques, si vous voulez.
Bon, je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant, parce qu'on a encore plein de choses à dire, plein d'exemples à vous donner. Je suis sûre que vous serez surpris, vous qui nous écoutez, de voir à quel point le néo-rétro se glisse un peu partout dans nos vies. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30 sur Europe 1. On poursuit notre débat consacré au néo-rétro, quand les codes esthétiques renvoient à une icône du passé. On en parle ce soir avec Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc, le sociologue Ronan Chastelier, président de Tendanceau, et Marie-Cécile Cervelon, professeure de marketing à l'EDEC Business School. Alors plusieurs, puiser dans le patrimoine historique des marques, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas uniquement dans le domaine de l'automobile dont on a parlé tout à l'heure. Je vous avoue que j'ai même eu pas mal de surprises en préparant cette émission sur ces marques qui surfent sur cette tendance. On connaît le grand retour des platines vinyles et des 33 tours, mais il paraît aussi que c'est le grand retour de la cassette audio. Alors ça, c'est le paradoxe de nos vies connectées, hein, Pascale Hébel.
Oui, alors c'est vraiment cette question de finalement du post-digital où on essaye de résister au digital. C'est pas qu'on refuse le digital, mais on revient vers des objets anciens pour finalement accepter qu'on va vers ça, et on a ce revenir en arrière sur des choses qu'on possède. Alors donc c'est le Polaroid, c'est la cassette, c'est le vinyle, c'est vraiment des objets alors que tout est numérisé. C'est-à-dire qu'on veut reprendre cette sensation de toucher l'objet. Et donc, il y a vraiment ça qui se développe sur beaucoup de choses, sur beaucoup de secteurs, qui va du vêtement jusqu'à, en effet, tout le monde du numérique.
Mais Marie-Cécile Cervelon, ces gadgets, ça, qui a envie aujourd'hui d'écouter son chanteur préféré avec le son d'une cassette audio ?
Pardon, j'ai mal entendu.
Je dis, c'est un peu gadget, non ? Qui a envie d'écouter des chansons sur une cassette audio aujourd'hui ? On parlait de ce paradoxe, hein, de nos vies connectées où on a des instruments super, super puissants, super pro, super génial. Et puis à côté de ça, on va ressortir les vinyles, les cassettes. Est-ce que vous nous entendez ? Bon, visiblement, vous ne nous entendez pas. Ronan Chastelier, ça tombe bien.
Non, mais c'est une problématique un peu de Jones, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, écouter comme ça sur des cassettes vidéo, si vous voulez, c'est décalé. C'est intéressant en ça. Il y a beaucoup de jeunes qui recherchent une espèce de répétition humoristique à travers les vintage. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont apprendre...
De répétition humoristique.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas au premier degré qu'ils vont visiter ces produits ou utiliser ces produits, si vous voulez. Il y a un petit décalage marrant
qui les intéresse. Ce n'est pas pour la qualité sonore.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce petit décalage qui est effectivement cette espèce de recherche un peu de jeune, hein, pour s'approprier comme ça le produit. C'est ça qui est intéressant, en fait. Mais en général, il y a pas mal de régressions créatives comme ça qui dénotent une espèce de jeu ironique avec le passé. Et ce jeu ironique avec le passé, c'est pas une simple démarche de commémoration, d'exhumation respectueuse du produit. Ça introduit toujours une espèce d'élément un peu sarcastique, poétique, qui prend un peu de distance avec le mythe d'origine.
Et
heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait.
C'est pas tout à fait pareil, sarcastique et poétique. On préfère poétique.
certains, vous ici, préférez la poésie. D'autres, plus jeunes, préfèrent effectivement le jeu ironique avec les produits.
Alors, je voudrais qu'on passe un coup de fil. Tiens, on va aller du côté d'Arras, tout de suite dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Margot Pradel.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Margot Pradel, vous êtes gérante et propriétaire de La Rageuse. La Rageuse, c'est une boutique à Arras. Donc, qu'est-ce qu'on trouve chez vous ?
Alors, ben, moi, on trouve du vêtement de seconde main, de vintage surtout, du rétro, des années 40 jusqu'aux années 90. Du vêtement, de l'accessoire, de la chaussure.
Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, vous étiez dans un autre domaine, puisque vous étiez designer dans un magasin de lunettes. Pourquoi est-ce que vous avez changé de voie ?
Alors, j'étais chez un créateur de lunettes, donc j'ai été au dessin et à la conception de modèles. Et j'y suis restée une douzaine d'années. Et de toute façon, dans ce domaine, on constatait aussi hein, que le style néo-rétro revenait en force depuis 3-4 ans. Et moi, j'avais envie de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté client, où on voit ce qui se passe des produits.
Et qu'est-ce que vous aimez dans le côté rétro ?
C'est surtout l'objet qui a un sens, qu'on a pris du temps à concevoir et qui a ce côté unique aussi.
Qui vous évoque
donner
aussi
un peu de la personnalité, en fait.
Qui vous évoque quelque chose aussi ?
Absolument, on est complètement dans les plaisirs de l'enfance, du passé. Vous parliez de la Madeleine de Proust, on est exactement dans cette ambiance-là, hein, retourner sur des émotions positives de nos vies, en fait, hein, qui aujourd'hui est un peu malmenée vu le contexte.
Et vos clients, ils viennent rechercher la même chose que vous dans votre boutique ?
Complètement. Et moi, j'ai vraiment différentes typologies de personnes. Je vais avoir un gros noyau d'ados qui viennent chercher de l'authenticité, des pièces uniques pour se démarquer parce que ils sont noyés dans toute cette masse de réseaux sociaux où tout le monde se ressemble. Et ils vont chercher à se démarquer, tout simplement. Je vais avoir des 30-40-naires qui vont chercher à consommer autrement, de manière plus réfléchie, avec un impact environnemental et humain plus raisonné. Et puis, les plus de 50 ans qui cherchent aussi à retrouver ces émotions qui leur rappellent des souvenirs familiaux,
des bons moments passés en famille,
passé,
un peu l'enfance.
Voilà.
Et puis, vous évoquiez un point important aussi, Margot Pradel, c'est que votre démarche, elle rentre aussi, si j'ai bien compris, dans une démarche écolo.
Exactement. Il y a une démarche écolo.
Éthique.
Éthique, absolument, où on va chercher des produits qui ont été conçus avec des matières qui étaient plus solides, sur des techniques de couture qui étaient faites pour durer, et puis qui ont traversé les années et qui se retrouvent en boutique dans un parfait, dans un état complètement impeccable en fait. Ce qui n'est pas le cas sur la fast fashion qu'on trouve aujourd'hui, qui est faite pour avoir une durée de vie limitée, pour amener le consommateur à revenir régulièrement en boutique.
Merci, merci beaucoup Margot Pradel. Et pour les auditeurs qui seraient intéressés par votre boutique, hein, elle s'appelle La Rageuse. C'est en centre-ville d'Arras, c'est ça ?
C'est ça, en plein cœur du quartier historique d'Arras, entre le Beffroi, le Palais Saint-Va et le théâtre.
On passera vous rendre visite, c'est promis. Merci beaucoup Margot Pradel. On recherche des produits authentiques, des produits qui vont durer dans le temps. C'est ça aussi le néo-rétro, Pascal Hébel ?
Oui, je crois qu'il y a vraiment cette idée de seconde main qui se développe là depuis une dizaine d'années, qui derrière, il y a vraiment la question d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on veut remettre dans le circuit des choses qui sont encore utiles, on ne veut pas jeter. Donc il y a vraiment toute cette tendance du zéro déchet qui se fait beaucoup. En ce moment, du côté du vêtement, il y a de plus en plus de gens qui sont zéro neuf, hein, qui veulent... Et chez les jeunes, comme on a besoin de s'équiper, de s'habiller, eh bien on va aller vers ces magasins qui proposent en effet des dépôts-ventes avec des choses qui sont très très anciennes. Et on revient à des communautés, à des films qui nous ont fait rêver. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'importance, qui va prendre de l'importance encore plus dans les prochaines années. Mais c'est un peu différent du néo-rétro parce que c'est vraiment de l'occasion.
Hein, oui.
C'est vraiment des
là,
biens
on est vraiment
qui
dans
existaient.
Le vintage, dans l'occasion. Là, mais oui. Alors, pour revenir au néo-rétro, j'ai découvert par exemple que la marque française, pour ne pas la citer, Le Creuset, quasiment centenaire, célèbre pour ses cocottes en fonte, connaissait un regain de popularité chez les jeunes. Et comment ce symbole de la cuisine traditionnelle française identifiée à la cuisine de nos grands-mères redevient-il un must-have ? Comment Le Creuset a-t-il réussi ce coup de maître, Marie-Cécile Cervelon ? Vous êtes professeure de marketing, je le rappelle.
Oui, alors je pense que votre témoignage précédent qui mentionne la quête d'authenticité qui caractérise les jeunes aujourd'hui, donner du sens à sa consommation, etc. Je pense que c'est extrêmement important de mentionner que les jeunes aujourd'hui, ils sont en recherche en effet de marques qui ont une durabilité dans le temps, qui sont un témoignage en fait de qualité. Un signal qui envoie un signal très fort de qualité et une marque comme Le Creuset, en effet, témoigne justement parce qu'elle a passé, elle passe de génération en génération, témoigne justement de cette qualité, de cette durabilité.
Oui, mais là, ça touche les jeunes. Hein. Il paraît que sur TikTok, aux États-Unis notamment, on se filme les jeunes de 20 ans se filment avec leur cocotte Le Creuset en gros plan, 22 millions de vues avec le hashtag Le Creuset.
Ils font peut-être ça au deuxième degré, non la cocotte...
Je ne sais pas, en tout cas, ils les achètent, ces cocottes qui coûtent cher en plus.
J'ai du mal à percevoir un jeune en train de se filmer sur TikTok.
Vous seriez surpris. Si, si.
Je crois qu'il y a une part d'humour derrière ça, mais c'est sûr que ça traduit cet engouement pour les vieux objets.
Je ne pense pas que ce soit de l'humour. Je pense qu'il y a vraiment un engagement pour un produit durable qui peut durer toute une vie. Je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont là pour se moquer de ces cocottes.
Sur un visuel comme ça, sur un TikTok, je ne sais pas. Enfin, moi, je crois en tout cas que ça traduit une lecture assez critique de la modernité.
Vous êtes très critique ce soir, Renaud Chastelier.
Oui, parce que le néo-rétro, si vous voulez, qu'est-ce que c'est au fond ? Je suis critique parce que, si vous voulez, ce vieux neuf, pour moi, ça traduit une forme de désarroi de la créativité, si vous voulez. C'est parce que vous avez une baisse tendancielle de créativité, c'est parce que vous avez du mal à inventer générationnellement de nouveaux objets que vous tombez dans le néo-rétro.
Pourquoi inventer de nouveaux objets quand on a une cocotte qui est formidable, qui n'accroche pas ? Je disais que Le Creuset, il travaille avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, avec des stars. C'est ça l'avenir du marketing ? Je reviens vers vous, Marie-Cécile Cervelon.
Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec Renaud Chastelier parce que je pense que le passé c'est une vraie source d'inspiration et que de tout temps on a créé avec des racines. Les nouveaux objets se développent avec des racines. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire qu'aujourd'hui, on ne crée plus et que
c'est
un témoignage. Le néo-rétro est un témoignage un peu du manque de créativité de notre époque.
Bon, je ne suis pas tout à fait non plus d'accord avec Ronan Chastelier, j'ai le droit de le dire.
Non, mais tout à fait, on n'est pas obligé d'être d'accord.
On va poursuivre ce débat ensemble dans un instant. On a encore plein d'exemples, plein d'illustrations, vous allez voir, vous allez être surpris. On va vous parler notamment du kawaii. Vous avez eu un kawaii, j'imagine, vous aussi, quand vous étiez petit, pour aller vous promener en forêt avec vos parents. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h42 sur Europe 1. On poursuit notre débat animé ce soir autour du néo-rétro. C'est cette mode, ces marques iconiques qui font leur grand comeback après des décennies tournées vers les nouvelles technologies. Pascale Hébel est à mes côtés, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc, également le sociologue Ronan Chastelier et Marie-Cécile Cervelon, professeure de marketing. Alors, parmi dans la série de ces produits qui redeviennent hyper branchés, on en a déjà évoqué plusieurs depuis le début de cette émission, il y a le kawaii. Vous savez, le kawaii, celui que nos parents nous forçaient à porter autour de la taille lors de nos malades le week-end, qui ressuscite aujourd'hui au rayon tendance, le kawaii ridiculisé il y a quelques années par Danny Boone dans son sketch Weka.
Je ne connais pas l'inventeur du kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas de cou. Il avait la tête et direct les épaules, il était comme ça. Parce que quand tu tournes la tête en kawaii, la tête elle tourne, mais pas la capuche. T'as mis ton kawaii, il pleut, t'as mis ta capuche, d'un seul coup on t'appelle à gauche. Hé Danny, ouais quoi? Le bruit là, c'est la matière plastique qui rentre dans ta bouche quand tu essaies de respirer. Dans un kawaii, tu sues à mort. C'est le principe du kawaii. C'est imperméable, mais à l'intérieur, t'es tout trempé.
C'est exactement ça. On transpirait dedans, c'était moche, et voilà que hop, ça devient super hype. La marque, là encore, l'a compris. Elle propose de nouveaux modèles de kawaii plus colorés, avec un tissu respirant, beaucoup plus chaud. Ils sont très beaux aujourd'hui, ils sont beaucoup plus chers aujourd'hui, mais on ne peut plus les ranger, paraît-il, dans la petite banane, vous savez, autour de la taille. Alors, on trouve aujourd'hui des kawaii dans les corners branchés, aux Galeries Lafayette, au Bon Marché, à Paris. Là encore, ça marche parce que le kawaii génère des souvenirs positifs, malgré tout. Marie-Cécile Cervelon, c'est les promenades en famille, les vacances à la campagne. C'est un coup de maître.
Tout à fait, mais également, je pense que c'est un phénomène de résistance quand même à une consommation conformiste. Ça correspond, et d'ailleurs votre témoignage, la personne qui a témoigné auparavant l'a mentionné, ça correspond quand même à un besoin de se singulariser par sa consommation quand même.
Oui, la commerçante à Arras, oui, elle disait ça, oui.
Ça renforce ces marques-là, elles renforcent leur authenticité, elles renforcent leur image aspirationnelle en puisant dans le passé, en puisant dans leur patrimoine. Et ça leur permet également, et vous l'avez mentionné pour kawaii, de vendre à des prix beaucoup plus élevés. Il y a plusieurs études qui ont montré que lorsqu'on active le ressort de la nostalgie, la valeur perçue du produit, elle est augmentée. Les consommateurs vont être moins sensibles au prix et le prix devient de fait un critère moins important dans l'acte d'achat. C'est aussi une des raisons qui va pousser les marques à renforcer, en fait, à continuer à puiser dans leur patrimoine, dans leur héritage et à relancer éventuellement des modèles qui ont disparu.
C'est la question suivante que je voulais vous poser justement autour des prix. Pascale Hébel, on pourrait aussi parler du retour gagnant de la marque Chevignon, des montres Lippe ou encore Fusalp. Fusalp, c'est intéressant comme histoire, la marque iconique du ski français dans les années 70. Vous savez que les fuseaux qu'on enfilait pour ceux qui avaient la chance de faire du ski, qui aujourd'hui fait partie non plus uniquement de l'univers du sport, mais de l'univers de la mode, avec des produits haut de gamme vendus très cher et qui pourtant se vendent.
Oui, tout à fait. C'est le cas de la Fiat 500. Elle se vend 3000 euros de plus que les autres voitures qui sont exactement du même modèle, exactement pour la raison qui vient d'être décrite. Il y a vraiment cette question qu'on le remet quand même au goût du jour, avec des matières qui sont innovantes. Stan Smith sur les baskets, ça a été exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont été déclinées avec du cuir, etc. Donc on les met au rayon luxe, mais parce qu'on le vend plus cher, parce qu'il y a vraiment cette question d'émotion qui est un plus par rapport à n'importe quel objet. Un objet qui est nouveau, il marche ou il ne marche pas. Il y a sur le nombre d'objets qu'on lance, le nombre d'échecs est très, très important. Donc, en fait,
des chiffres là-dessus. On sait combien
il y a des secteurs, dans les rayons des hypermarchés pour de l'alimentaire, il y a 20%, 30% de ce qui est mis qui reste pas, en fait. Et donc, en fait, on les met en marché et puis ça disparaît, en fait. Et on s'en rend même pas compte.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi des marques iconiques qui ont tenté peut-être leur chance en disant tiens, je vais relancer tel produit et puis ça a fait un bide.
Oui, on
ne
sait jamais.
Alors, c'est quoi la clé du succès? Comment est-ce qu'on peut savoir si ça, ça va marcher?
Il y a vraiment des effets de mode, des effets de rumeur, ça se diffuse. Donc, il suffit qu'en effet, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y ait un jeune, une communauté qui a plein d'amis et qui le montre sur son réseau Instagram ou autre. Et finalement, ça fait boule de neige.
Ouais.
Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Les effets de mode, et donc là, il y a plein d'innovations qui disparaissent, bien sûr, mais il suffit de les mettre sur le marché, ça ne marche pas, on les enlève et on met autre chose. Hein, donc le marché fonctionne comme ça.
Est-ce que ce côté émotionnel, retour en enfance ou en adolescence, peut s'exporter? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes références dans différents pays. Marie-Cécile Cervelon.
Oui, bah, l'exemple de McDo les 50 ans de McDo dont toute la campagne de communication a été fondée sur la nostalgie, justement, ont montré que la marque a traversé les époques, etc. Et le McDo, je pense que c'est un bon exemple de marque qui est quand même à l'international, qui est quand même une marque globale et qui joue sur la nostalgie dans les différents pays. Enfin,
on est dans le néo-rétro.
Pour les 50 ans de McDo.
On est dans le néo-rétro. Vous nous parlez de McDo, mais on est dans le néo-rétro avec McDo.
Alors, ils ont joué leur campagne de communication 2018 pour les 50 ans du McDo. A joué en effet du McDo sur la nostalgie. Ça présentait justement le hamburger à travers les époques.
Ok. Est-ce que ça veut dire qu'on est devenu, enfin c'est une question bête parce que oui, on est devenu des objets de marketing, évidemment, Ronan Chastelier.
Je ne veux pas faire ressurgir le débat, mais
non,
c'est sûr que c'est légèrement paradoxal. Si vous voulez, on recherche quoi avec ces objets anciens, etc. Une forme d'artisanat, d'objet unique, un goût du passé, quelque chose qui est très personnel. Et on se retrouve avec des marques très industrielles qui font valoir l'attribut nostalgie pour en vendre plus. Voilà, alors je suis d'accord avec vous. L'émotion, ça permet de vendre plus cher. Mais bon, je reste convaincu de ma propre idée, qui est que tout ça, ça traduit tout de même une espèce de manque d'idées et que, effectivement, on devrait pouvoir créer davantage aujourd'hui et moins, un peu moins s'inspirer du passé, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de délire commémoratif en permanence et on se demande ce que cette génération va inventer. C'est très vrai quand on écoute de la musique, vous pointez au rayon fromage de n'importe quel hypermarché, là on sait parfaitement que le consommateur est néophobe, c'est-à-dire qu'en fait c'est super difficile de lui vendre un nouveau fromage, c'est-à-dire que donc il achète constamment des anciens, etc.
Et ça, c'est quelque chose qui vous dérange, qui...
Bah oui, j'aime bien quand on invente un peu, parce que
d'inventer par ailleurs.
Il y a une espèce de stratégie du coucou en permanence chez les industriels, de la réplique, un processus de réplique, si vous voulez, qui finit par être un peu fatigant, quoi. Et ce serait bien effectivement qu'on invente stricto sensu quelque chose, quoi. Voilà. Mais bon, c'est une pensée généreuse.
Oui, Pascal est belle. Les cadras quinca d'aujourd'hui sont peut-être aussi la première génération confrontée à une culture matérielle dont on garde des traces. Il y a les ordinateurs qui nous permettent aussi d'avoir des multiples moyens pour entretenir cette adolescence.
Oui, tout à fait. Il y a ça qui est facile à retrouver en allant chercher dans toutes les archives. C'est aussi la deuxième génération de la société d'hyperconsommation. Et on sent quand même que derrière le fait de revenir en arrière, c'est qu'on a envie d'arrêter cette société où on est toujours en train d'inciter les uns les autres à consommer. Donc c'est plus une résistance, en fait, et un changement qui est fondamental de se dire on n'a pas envie de continuer à consommer des nouvelles choses, en fait. Hein. On veut vraiment préserver les ressources. Et c'est quand même, ça nous dit ça. Et dans cette période où on est on est quand même dans des révolutions, des changements phénoménaux qui perturbent beaucoup. Donc on a vraiment besoin de se rattacher à notre culture. Et là, la crise que l'on traverse en ce moment, un an de Covid, va forcément... c'est vraiment une rupture pour tous, hein, pour tout le monde. Tout le monde se remet en cause. Et donc, on va avoir besoin de revenir comme ça sur des objets encore de façon plus forte, en fait. Et il y aura sûrement de nouveaux produits qui vont être remis au goût du jour.
Un petit côté doudou qui est
ouais.
Apaisant.
En préparant cette émission, notre réalisateur Vincent Thévenet me racontait qu'il s'offrait des coffrets de Lego, alors pas pour ses enfants, mais pour lui, hein, des coffrets spécialement conçus pour
ça
les adultes,
très bien.
Sûr. Ouais. Oui, ça marche très bien.
Les Lego pour adultes, ouais,
voilà,
c'est
des objets
ça.
Qu'on peut laisser en déco dans son salon
c'est,
rapidement.
C'est légèrement agressif.
Non. Quel regard les enfants d'aujourd'hui portent-ils sur leurs parents qui jouent au Lego, qui conduisent une 205 GTI ou qui jouent aux jeux vidéo de leur enfance, qui écoutent des vinyles?
Le regard,
ouais.
Bah, peut-être qu'il retourne en enfance. Il y a un moment où il faut acquérir une forme de maturité. Mais je pense qu'il y a une certaine régression quand même qu'il faut s'interdire, se limiter. si vous voulez. Bon. Mais effectivement, bon, c'est marrant jusqu'à un certain point, si vous voulez, la régression. C'est marrant jusqu'au point où on régresse vraiment, quoi. Mais
Vincent, tu es en pleine régression.
Je le sens muet de la tête.
Merci, merci en tout cas à tous les trois. Dans un instant, on continue de surfer sur cette vague du néo-rétro. On vous racontera ce jour où la série Dallas est apparue sur nos écrans de télé. À tout de suite.